Radio Kapi. Oh, Kapi.
Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, ouvre les bancs de cette édition de midi avec sa déclaration depuis Davos en Suisse en guise de réponse à une question de la presse sur la sécurisation de la partie est de la RDC. Le pouvoir de Kinshasa attribue toute la responsabilité de l'instabilité sécuritaire dans les Grands Lacs à Kigali et son président Kagame. Il est député national, président présent dans la partie est de la RDC. Garcian Irachan, notre invité en fin de cette édition, encourage la population à un enrôlement massif et à la CENI de venir à bout des difficultés relevées de pour parfaire l'opération destinée à enrôler dans la seconde de ce processus. Restez donc avec nous pour nous apprendre davantage sur l'actualité congolaise. Bienvenue et fidèles auditeurs. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, Chan Algérie 2022, la deuxième journée se poursuit ce mercredi 18 janvier 2023 avec deux matchs du groupe B. RDC contre Côte d'Ivoire à 17h juste et Sénégal-Ouganda à 20h juste au stade du 19 mai 1956. La RDC joue ce un grand jeu après le match nul contre l'Ouganda. Vanessa Kongolo nous en parle.
Face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, battus 0-1 par les Lions du Sénégal lors de la première journée, les Léopards doivent gagner les matchs pour obtenir une qualification en quart de finale après un match nul de 0-0 contre l'Ouganda. Les hommes de Otis Ngoma feront face aux éléphants qui jouent un match de survie car en cas d'une défaite, la Côte d'Ivoire sera éliminée de la compétition. Les Léopards qui ont connu des problèmes de crampons face à l'Ouganda vont jouer avec le bottin approprié selon le coach Otis. Cinq forfaits sont signalés côté RDC. Bernard Moukeka, Kevin Mondeko, Peter Mutumosi, Kikasa Ebola. Entre-temps, les Léopards vont bénéficier de l'appui du public. Une délégation de plus de 150 personnes, composée des officiels, supporters, dirigeants sportifs, journalistes et animateurs, sont arrivés à Annaba la nuit de ce mercredi. Le ministre des Sports, Serge Chembo, est déjà sur place depuis hier avec le prime de joueurs. RDC Côte d'Ivoire, match à suivre à partir de 17h juste de Kinshasa sur un test live sur la page Facebook de Radio Okapi.
Comme dit dans le sommaire, le président de la République s'est exprimé une fois de plus sous la responsabilité du Rwanda dans la crise sécuritaire à l'est du pays. C'était hier, lors d'un panel au deuxième jour du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Félix-Antoine Tshisekedi, qui répondait à une question d'une journaliste sur la difficulté d'instaurer la paix à l'est du pays, a expliqué que le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. On l'écoute dans cet extrait choisi par Cynthia Bachizi.
Le problème que nous avons, c'est un très grand défi parce que on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda.
Au Nord Kivu, la marche pacifique prévue ce mercredi par le collectif des mouvements citoyens et autres groupes de pression au Nord Kivu a été interdite par la mairie de Goma. Ils avaient appelé la population à descendre dans les rues pour dénoncer la passivité de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, face aux rebelles du M23. Conséquence, les activités socio-économiques dans la ville de Goma ont tourné au ralenti. Les détails avec Bernardine Diambo.
Tôt ce matin, vers 4 heures locales, les éléments de la police nationale congolaise ont été déployés dans les points chauds de la ville afin de prévenir tout dérapage. Du coup, les activités commerciales notamment ont fonctionné timidement cet avant-midi. Les marchés publics sont restés déserts. Plusieurs magasins, boutiques et banques n'ont pas ouvert leurs portes. Certains parents sont restés sceptiques pour envoyer leurs enfants à l'école. On a cependant observé les transports en commun qui a fonctionné normalement. Certains mouvements citoyens ont bravé cette décision du maire. Le commissaire supérieur principal, à travers un communiqué officiel publié hier mardi, a rappelé à la population que toutes les manifestations publiques durant la période de l'état de siège ne sont pas autorisées. Ainsi, le colonel François Kabeya Makosa a demandé aux représentants des mouvements citoyens d'aller à la mairie vers 9h locale pour déposer leur mémorandum afin d'être transmis à la hiérarchie. Les mouvements citoyens n'ont pas obtempéré aux injonctions du maire de la ville. Certains se sont regroupés vers Mutinga et rond-point Chukudu, tandis que d'autres vers la grande barrière et à l'entrée de l'avenue appelée Président. Quelques militants ont été visibles sur les grandes artères de la ville avec leur calicot à la main. D'autres se sont dirigés vers le gouvernorat de province pour déposer leur mémorandum. Selon plusieurs sources, ces derniers ont été dispersés par la police. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
En Ituri, les activités socio-économiques sont quasi paralysées ce mercredi à Bunia et dans les grandes agglomérations à l'intérieur de la province. C'est en réponse à l'appel des trois journées de ville morte décrétées par la coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri. Cette structure fustige le regain d'insécurité dans cette province sous état de siège où plus de 100 civils sont tués en l'espace d'une semaine par les groupes armés. De son côté, le maire de la ville menace de sceller toutes les maisons de commerce qui ont fermé leurs portes. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Selon la société civile Force Vive de l'Ituri, cette mesure des trois journées ville morte, c'est pour manifester le ras-le-bol de la population face à la recrudescence des atrocités des groupes armés. Son coordonnateur précise qu'environ 100 personnes sont mortes en l'espace d'une semaine dans les territoires de Djougou, Mahagi et Irumu. Cette décision de sécher les activités est appuyée par certaines associations culturelles et la Fédération des entreprises du Congo FEC, dont presque tous les membres ont observé ce mot d'ordre. Ce mercredi matin, plusieurs boutiques, magasins, supermarchés, des écoles ainsi que des stations-service sont restées fermées à Bunia et dans les centres commerciaux. D'autres maisons de commerce, institutions bancaires, établissements scolaires et des hôpitaux ont fonctionné normalement. Cela conformément à la décision du maire de la ville de sceller tout établissement commercial qui va obtempérer à l'appel de la société civile. Certains habitants qui gagnent leur pain quotidiennement désapprouvent cette décision de la ville morte et qui leur cause préjudice. Signalons que des militaires et policiers sont déployés dans les coins stratégiques de la ville pour encadrer la population. Affirme les services de sécurité. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Justice, très incessamment, le Conseil supérieur de la magistrature va procéder à une nouvelle mise en place générale des magistrats dans tout le pays. Cette annonce faite par le Conseil supérieur de la magistrature survient à la suite de la carence des magistrats et leur absence dans plusieurs coins du pays, notamment dans la province de Maïndombé, où la justice n'est pas administrée, n'est-ce pas Jeff Ngoy?
Effectivement, à propos justement de l'absence des magistrats dans le Maïndombé dont se plaignent les avocats, le Conseil supérieur de la magistrature rappelle qu'à la suite du lynchage dont avait été victime l'ancien procureur général du Maïndombé depuis une année, son assemblée générale avait décidé de ne pas seulement colmater quelques brèches, mais de faire une mise en place générale des magistrats dans toutes les juridictions du pays. La carence des magistrats est constatée partout au pays, et le récent recrutement de 5000 nouveaux est venu combler cette carence. La nouvelle mise en place est en cours d'examen et n'attendait que le nouveau budget de 2023 qui vient d'entrer en vigueur. Puis il faudra tenir compte aussi de la sécurité des magistrats qui seront déployés en province. Cette question de sécurité a été soulevée et le ministère de l'Intérieur en a été saisi selon le CES.
À moins de trois semaines de l'arrivée du pape François à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo s'est dit satisfait du niveau des préparatifs. Il a visité hier mardi le site de Ndolo où sera dite la messe papale. Il a également échangé avec l'équipe qui y travaille nuit et jour pour la réussite de cet événement. L'archevêque de Kinshasa invite aussi, ainsi tous les fidèles catholiques et non catholiques à disposer leur cœur pour bien accueillir le pape. Fridolin Ambongo est au micro de Jeff Ngoy.
C'est la première fois que j'arrive ici pour visiter le site. Et il était important pour moi de venir visiter parce qu'il y a deux semaines, j'étais à Rome, j'étais avec le Saint-Père, je lui ai garanti que tout allait bien, le préparatif était au point, mais je voulais quand même m'assurer si ce que j'avais dit au Saint-Père correspondait à la réalité. Je suis venu aujourd'hui, j'ai vu et je peux dire que nous sommes dans le bon. Avec l'équipe qui est là, hyper motivée et qui nous rassure. sûr que d'ici le 25, tout sera terminé. Je crois que nous serons dans le délai. Je suis vraiment rempli de joie. C'est un sentiment de satisfaction après cette visite et j'entrevois déjà comment la cérémonie va se passer ce jour-là. Je suis vraiment heureux. Ce que nous attendons de fidèles, c'est de disponibiliser leur cœur, entendre le message que le pasteur universel viendra nous délivrer.
Au Kassai oriental, amélioration des conditions de voyage sur la route Mbujimayi-Boya long de 55 km. Depuis l'arrivée à Mbujimayi des bus de la société de transport du Congo Transco, plusieurs voyageurs qui empruntent la route Mbujimayi-Boya utilisent désormais le bus, abandonnant ainsi les motocyclettes. Coût de transport par bus 5000 francs congolais au lieu de 12 500 francs congolais payés sur les motocyclettes pour la même destination. Des explications avec Esther Dalafina.
Quitter actuellement Mbujimayi pour se rendre dans les localités de Miabi-Boya dans les territoires de Miabi devient un voyage de luxe à petit prix. Les voyageurs payent désormais 5000 francs sur le bus au lieu de 12 500 francs congolais qu'ils disponibilisaient pour les motocyclettes. Témoignage. C'est bien maintenant parce que nous payons moins cher. Sur la moto, on payait 12 500. Maintenant, c'est 5000 qu'on paye aller, 5000 retours. Nous avons la joie. Autre fait relevé, c'est la sécurité et le confort. L'amélioration des conditions, oui, cependant, une fausse note reste la surcharge, d'après les voyageurs. Nous sommes à l'aise dans le bus, nous sommes bien assis, mais nous demandons au gouvernement qui nous a donné le bus de multiplier le nombre de bus, parce que sur la route, il y a beaucoup de gens, et lorsqu'ils montent dans le véhicule, il y a ceux qui sont debout dans les mauvaises conditions. Nous voyons qu'il y a 47 sièges, mais les gens qui entrent sont plus de 100.
Au niveau de Transco, on estime qu'il n'y a pas surcharge. Ils transportent en fonction des places assises et debout.
Signalons que l'ouverture par Transco de la ligne Mbujimayi-Boya, quelques bus avaient essuyé les jets de pierre de certains motocyclistes qui déploraient leur renvoi au chômage forcé. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
En plus bref, processus électoral, le parti politique et mouvement Lumumbiste progressiste MLP exige du gouvernement d'organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées à tous les niveaux préélectoral, électoral et post-électoral. Dans une conférence de presse en marge des fêtes dédiées aux héros nationaux, Lumumba Kabila Frank Diongo, président de ce parti, appelle la population congolaise d'exiger à la CENI l'organisation des élections inclusives dans le délai constitutionnel. Et au Maniema, après une série de formations en cascade en faveur des agents temporaires et permanents de la CENI Maniema sous la révision du fichier électoral, ces derniers sont maintenant déployés dans les antennes pour assurer la formation du niveau 3 dans les territoires. Cette précision nous a été donnée par le secrétaire exécutif provincial de la CENI Maniema. Émile Dimoketambwe fait savoir que tout va bien pour l'organisation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette province. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Nous venons de clôturer la formation du niveau D qui a regroupé les chefs d'antenne, les informaticiens, le point focal juriste, les membres du CEP, les formateurs électoraux provinciaux. Pendant 7 jours, nous avons acquis des connaissances pouvant nous permettre de prendre en charge le niveau 3 de la formation au niveau des antennes, donc au niveau des territoires. Fini la formation au niveau du CEP. Et de demain déjà, nous allons commencer à déployer les formateurs qui sont venus de Kinshasa, bien entendu, pour nous donner un coup de pouce. Et les chefs d'antenne et les informaticiens qui sont venus des antennes. Donc, ils doivent devoir regagner pour aller préparer le niveau 3 de la formation à ces niveaux-là. Comme ce fut le cas à Kindu, ceux qui ont été formés ici l'ont été pour aller prendre en charge la formation au niveau 3. Ils ont été formés sur les différentes matières portant sur la révision du fichier électoral. Tout va très bien. Jusque-là, nous sommes en train de respecter notre calendrier. Nous avons organisé la formation pour 7 jours. Et pour l'instant, nous sommes en train de déployer nos collègues au niveau des territoires. Si tout va bien, le 22, nous allons lancer la formation au niveau des antennes.
Actualité internationale.
Alors que la Tunisie est en proie à des pénuries répétées des produits de base, la Libye a fait don des denrées alimentaires à son voisin. Un convoi de 96 camions transportant du sucre, de l'huile, de la farine et du riz a passé le pont de Rajedir mardi. Un don qui intervient moins de 2 mois après la visite à Tunis du premier ministre intérimaire libyen Abdelhamid Abdeiba, basé à Tripoli, visant à réchauffer les liens avec le gouvernement du président tunisien Kais Saied. La Tunisie est en proie à une récession qui s'est aggravée depuis sa révolution de 2011, elle-même déclenchée par des difficultés économiques. La Société des médecins au Malawi exhorte les autorités scolaires à s'assurer du suivi des directives de prévention du choléra pour minimiser les risques d'infection dans les écoles. C'est notamment le lavage des mains au savon, des désinfectants, chlore pour le nettoyage des toilettes et salles de classe. Le ministère de l'Éducation a annoncé la reprise des cours dans certaines régions mardi et a mis en place, par l'intermédiaire des ministères compétents, une équipe spéciale chargée de surveiller la propagation du virus. Les établissements de Lilongwe, la capitale, et de Blantyre sont concernés par la décision des réouvertures.
L'invité.
En tournée dans la partie est de la République dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député national Gratien Iratiana demande aux populations de s'approprier le processus électoral en se faisant enrôler massivement. Dans cet entretien avec Denis Lukeso, l'élu de Bounia appelle aussi la CENI à tirer la leçon des erreurs constatées dans la première zone de l'opération d'enrôlement afin de les corriger pour la suite de cette opération dans la partie est pour que ce soit une réussite. Suivez.
Gratien Iratiana, bonjour.
Bonjour Madame la journaliste.
Dans le cadre de vos vacances parlementaires, vous avez eu beaucoup d'activités dans le Nord Kivu. On peut savoir d'abord de quoi s'agissait-il?
Nous avons chaque fois saisi l'occasion pour parler avec les membres des communautés, les jeunes, tout simplement à les inviter à adhérer au processus électoral. Et nous avons aussi restitué nos activités de vacances parlementaires, en plus d'un appel patriotique que nous leur lançons pour que le pays puisse vivre dans sa dignité et aussi pour que le développement puisse enfin être lancé. Nous avons d'abord demandé à tous les Congolais de pouvoir s'enrôler massivement. Nous leur avons demandé aussi de s'approprier les processus électoraux. Ça veut dire qu'ils doivent s'enrôler jusqu'à aller voter massivement s'ils veulent les changements. Et nous leur avons demandé surtout de rester au niveau des bureaux de vote jusqu'à obtenir les PV de tout ce qui est fait comme vote. Parce que nous pensons que cette fois-ci, nous ne voulons pas de tricherie et donc la population chaque fois dit que voilà, nous allons voter et que nos voix seront utilisées autrement. Mais pour nous, nous avons pensé qu'il faut leur demander aujourd'hui de voter et de rester au centre de vote, dans les différents bureaux de vote, pour obtenir les PV qui permettra à ce que nous puissions avoir des éléments matériels au cas où il y a contestation et que surtout la volonté de la population soit exprimée.
Au regard de la situation sécuritaire qui traverse les provinces de l'Est, notamment le Nord Kivu et l'Ituri, est-il possible, sachant que certaines zones sont toujours sous occupation des rebelles?
Nous sommes en train d'espérer que les enrôlements ou même le vote auront bel et bien lié, même dans les zones sous occupation. Et nous sommes en train d'espérer qu'il y aura un processus qui va évoluer parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'implication de la communauté internationale pour la résolution pacifique de ce qui se passe à l'Est, ça nous encourage quand même à espérer. Mais ça ne doit pas nous décourager parce que la solution à court terme, même je dirais, ou à moyen terme, pour bien gérer la RDC, c'est plutôt avoir des dirigeants qui représentent vraiment les points de vue de la population, donc qui représentent la vérité des urnes. Donc c'est très important que ces processus se déroulent. Bien sûr, nous sommes inquiets parce que aujourd'hui, avec l'état de siège dans les deux provinces, on se demande est-ce qu'il y aura élection, il n'y aura pas élection dans ces zones. Bon, mais nous avons quand même foi. Bon, nous espérons que le président de la République qui nous a promis, nous, élus de Nord Kivu et de l'Ituri, qu'avec ou sans état de sièges, il y aura vote à Ituri et au Nord Kivu. Espérons que ces paroles seront tenues. Mais nous sommes aussi inquiets parce que nous avons vu déjà la zone est où l'enrôlement ne marche pas bien. Vous savez ce qui se passe, les matériels sont défectués. Au lieu que la CENI puisse chercher à corriger le problème, mais la CENI prend la défensive. Et là, ça nous inquiète sérieusement parce qu'au moins la CENI devrait tirer la leçon de cette première zone, de cette première expérience, pour que la deuxième zone soit bien opérationnelle plus que la première et qu'au niveau de la troisième zone qui est l'est de la République qui a assez souffert puisse avoir un accès facile à tous les matériels afin que la population puisse s'enrôler massivement. Donc nous pensons qu'il y aura enrôlement effectif ici à l'est mais aussi les élections à 2023 à la fin de l'année.
Vous avez rencontré certaines communautés locales à qui vous demandez leur implication. Qu'est-ce que vous attendez de ces communautés?
Nous voulons assez que ces communautés sensibilisent et persuadent les citoyens de pouvoir s'enrôler parce qu'il y a toujours des résistances. Je pense que les leaders doivent aller vers la population pour convaincre ces populations-là, ces membres des communautés, de pouvoir s'enrôler d'abord parce que sans enrôlement, on ne peut pas voter et de pouvoir voter. Donc, il y a cette crainte qui existe, une crainte qui est permanente, mais aussi nous sommes en train de sensibiliser les leaders à pouvoir laisser la population libre s'exprimer. Donc vous trouvez dans tel territoire, il n'y a que tel leader, si ce n'est pas lui, personne ne peut décider. Est-ce qu'il faut-il que la communauté puisse toujours accepter de rester avec ses leaders? Non, il faut qu'il y ait maintenant des jeunes leaders qui peuvent contrebalancer, des leaders émergents qui peuvent renverser la tendance pour que la population soit libre de s'exprimer.
Voilà, honorable Gracien Irachan, Radio Kapi, vous remercie.
Je vous remercie aussi.
Nous disons merci aussi à vous, auditeurs, qui avez suivi cette édition de journal, mise en onde par Jean-Claude Tiala, préparée par Élisée Chikota, Martin Sebou-Jangwe, et l'ensemble de toute la rédaction, et Billy Yvan Lutumba vous l'a présenté au nom de toute cette équipe. Je vous dis sincèrement merci pour votre légendaire fidélité à Radio Kapi.